VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, bienvenue. Le président sud-africain Jacob Zuma a lancé aujourd'hui un appel au calme et à la fin des attaques xénophobes. Par ailleurs, étrangers et sud-africains sont descendus dans les rues de Durban pour crier leur hola. Michel Joseph.
Au moins 4000 personnes ont marché contre la xénophobie à Durban, à l'appel des autorités locales qui avaient loué des bus pour l'occasion afin de permettre aux habitants des townships de venir manifester. La marche a commencé de façon pacifique, nous dit Kapende Ntashi, un témoin, mais la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser des contre-manifestants. L'incident a duré quelques minutes. Le chef de l'État a condamné les violences dans les termes les plus forts. Nous appelons au calme et à l'arrêt des violences, a lancé Jacob Zuma lors d'une allocution au Parlement retransmise en direct à la télévision. Kapende Ntashi, un Sud-Africain opposé aux attaques xénophobes, dénonce la montée de la peur et les messages de haine. Les violences xénophobes dans les faubourgs de Durban, le plus grand port sud-africain sur l'océan Indien, ont fait au moins 6 morts depuis début avril. Les émeutiers accusent les étrangers de prendre le travail des Sud-Africains ou de faire une concurrence déloyale au commerce local dans les townships où le taux de chômage atteint les 40%.
Et remous politique en Côte d'Ivoire, le MFA, le Mouvement des Forces d'Avenir, petit parti de la majorité au pouvoir, dénonce la dérive totalitaire du régime Alassane Ouattara. C'est ce que rapporte l'AFP. Le chef du Mouvement des Forces d'Avenir, Innocent Kobiner Anaki, accuse notamment le pouvoir d'avoir tenté de l'évincer de la tête de son parti. Déclaration qui intervient à 6 mois de la présidentielle d'octobre. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'ONG Reporters sans frontières a dénoncé l'immobilisme dans l'enquête concernant la disparition du journaliste franco-canadien Guy André Kiffer dans les circonstances troubles il y a 11 ans à Abidjan. Reporters sans frontières s'inquiète de l'absence de progrès dans l'enquête et demande aux autorités françaises et ivoiriennes de concrétiser leur promesse d'élucider l'affaire dans un communiqué transmis jeudi à l'AFP. Guy André Kiffer a disparu le 16 avril 2004 sur un parking de la capitale économique ivoirienne alors qu'il avait rendez-vous avec Michel Legré, beau-frère de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne. L'Algérie, chef de file de la médiation dans la crise malienne, a invité toutes les parties prenantes hier à Alger pour un nouveau round des négociations. Le gouvernement malien a déjà paraphé le premier accord. Par contre, la coordination des mouvements de l'Azawad dit qu'il y a encore des points à clarifier. Une partie de cette coordination de 3 mouvements Touareg veut la reconnaissance de l'Azawad comme entité géographique, la création d'une assemblée interrégionale comprenant Gao, Kidal et Tombouctou, et souhaite aussi définir la liste des combattants qui doivent intégrer l'armée malienne et leur grade. Un mot de santé, une épidémie de méningite qui sévit depuis janvier au Niger a déjà fait 75 morts, dont plus de la moitié dans la capitale Niamey, selon un nouveau bilan donné à la télévision d'État par le ministre de la Santé, Mano Agali. Toutes les régions du pays sont touchées, à l'exception de Difa, dans le sud-est, proche du Nigeria, a indiqué le ministre. Niamey est la zone la plus frappée, avec plus de la moitié des décès, soit 41 sur 279 cas. Des campagnes générales de vaccination seront entreprises dès la semaine prochaine dans les zones très touchées par cette épidémie de méningite.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le train des élections vient de démarrer en République démocratique du Congo avec le début des enregistrements des candidatures pour les régionales. Mais déjà, l'ancien mouvement rebelle du 23 mars a prévenu que la mise à l'écart de certains Congolais contraints de se réfugier dans d'autres pays et le non-respect de l'accord de Nairobi seront un obstacle aux autorités qui seront élues à être accepté par tous. Eddie Sango a demandé des détails de l'opération d'enregistrement des candidatures au rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba.
En ce qui concerne les Congolais qui sont des réfugiés dans les pays comme l'Ouganda, le Rwanda et puis le Burundi, il est un fait qui est aussi important. C'est que le droit d'élire, mais aussi de se faire élire, ne leur est pas possible pour le moment. Parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas fouler le territoire congolais pour des raisons sécuritaires. Donc, ce n'est pas qu'ils réclament le droit d'aller se représenter, enfin, d'aller se présenter dans une ambassade pour élire. Ce n'est pas cela. C'est le droit aussi de se faire élire. C'est le droit aussi de participer à la campagne électorale, de pouvoir faire face à leur candidat, discuter avec eux. Cela fait la différence avec les autres Congolais qui ont choisi pratiquement de vivre à l'étranger. Mais nous autres, nous n'avons pas choisi de vivre à l'étranger. Nous avons été contraints à vivre à l'étranger. Et par rapport aussi à la possibilité qu'il leur est offerte de vivre ou de se faire élire.
Jean-Pierre Kalamba, joint par Eddy Issango. Toujours en République démocratique du Congo, une organisation de défense des droits de l'homme réclame la libération immédiate des jeunes militants congolais détenus au secret depuis un mois. L'ONU aussi demande aux autorités congolaises de les déférer devant la justice. Idriss Fall.
Dans son communiqué, Human Rights Watch dit que les autorités de la RDC devraient libérer sans délai 7 activistes pacifistes qui sont détenus de manière injuste, certains depuis le 15 mars. À défaut d'une libération, les autorités devraient les inculper d'un délit crédible, ajoute Human Rights Watch, rejoignant une demande formulée la veille par la CAGE, une ONG locale de défense des droits de l'homme. L'Assemblée nationale a constitué fin mars une mission d'information pour comprendre les raisons de cette détention prolongée des militants et ses conclusions se font toujours attendre. Pourtant, l'article 18 de la Constitution de la RDC dispose que la garde à vue ne peut excéder 48 heures et, passé ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Du nouveau sur l'attentat contre l'université de Garissa qui a fait 148 morts le 2 avril au Kenya. Les 4 assaillants ayant mené cette attaque revendiquée par l'organisation islamiste Al-Shabaab seraient tous kenyans. C'est du moins ce qu'indique le Daily Nation, le plus gros tirage de la presse nationale. Le point Idi Essango.
Ces 4 assaillants ont été tués par les unités d'intervention kenyanes. Jusqu'ici, seul un d'entre eux a été officiellement identifié. Il s'agirait d'un Kenyan d'ethnie somali, originaire des Mandera, ville du nord-est kenyane, frontalière avec la Somalie et diplômé en droit de l'université de Nairobi. Les 3 autres seraient eux aussi kenyans, en croire des sources qui ont gardé l'anonymat au sein des services des renseignements. Ils seraient originaires de Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est, de la région de Bungoma, près de l'Ouganda. Aucune confirmation officielle n'a pu être obtenue. Si leur nationalité kenyane venait à être confirmée, cela démontrerait les capacités de recrutement des islamistes somaliens d'Al-Shabaab et la radicalisation d'une partie de la jeunesse kenyane.
Et c'est dans ce contexte que Médecins sans frontières met en garde contre le retour en force des réfugiés somaliens dans leur pays. Mesure réclamée par le Kenya en réaction au massacre de Garissa. Forcer le retour des réfugiés dans un pays dévasté par la guerre n'est pas une solution, estime MSF. Nouveau naufrage dans la Méditerranée. 41 migrants ont disparu après la coulée de leur vieux canot pneumatique. C'est ce qu'ont expliqué les survivants, tous africains à leur arrivée en Sicile. Par ailleurs, dans un autre incident, 12 hommes ont été jetés à la mer après une rixe sur l'embarcation de fortune qui devait les amener en Europe. Les victimes des Nigérians et Ghanéens auraient été visées en raison de leur religion chrétienne. Leurs assaillants, une quinzaine d'hommes, seraient des musulmans sénégalais, maliens et ivoiriens. Ils ont été arrêtés à leur arrivée en Europe.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Pour parler sur le nucléaire iranien, les négociateurs de l'Iran et 6 grandes puissances du P5+1 reprennent leurs discussions la semaine prochaine à Vienne en Autriche, plus exactement les 22 et 23 avril. L'objectif des deux camps, transformer l'accord cadre conclu au début du mois en un accord global et final d'ici au délai limite du 30 juin qu'ils se sont eux-mêmes imposés. Les grandes puissances veulent limiter le programme nucléaire iranien pour faire en sorte que Téhéran ne fabrique pas des armes atomiques. L'Iran veut en échange la levée des sanctions qui nuisent à son économie. Conflit au Yémen, le médiateur de l'ONU au Yémen, Jamal Ben Omar, a présenté sa démission alors que la guerre entre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran et les partisans du président Abd Rabbo Mansour Hadi, appuyé par la coalition menée par l'Arabie Saoudite, entre dans sa 4e semaine. Riyad semble déterminé à remporter une victoire sans appel sur les houthis, selon l'AFP. Un journaliste ukrainien pro-russe connu, Albuzina, a été tué aujourd'hui à Kiev. C'est le 2e meurtre par balle d'une personnalité pro-russe dans la capitale ukrainienne en 24 heures. Jean-Roger Billon, prochaines informations sur ce moment dans 20 minutes avec le magazine Le Monde Aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info.